sur les sentiers de l'orthodoxie. Une émission présentée par le père Pascal Scordino.
Pour ce dimanche du publicain et du pharisien qui ouvre notre triode de carême, nous rediffusons cette semaine cette interview de père Marc-Antoine Costa de Beauregard sur l'emblématique psaume 50. Alors nous recevons aujourd'hui le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, doyen de la France pour l'archevêché roumain d'Europe occidentale et méridionale et enseignant de théologie liturgique et de dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe Dumitru Staniloae à Paris. Bonjour père Marc-Antoine.
Bonjour.
Alors je me tourne vers vous aujourd'hui pour parler du psaume 50 et en particulier de la deuxième partie de ce psaume qui commence par « Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue exultera pour ta justice », qui continue par « Mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur broyé et humilié, Dieu ne le méprise point. » Et qui finit par « Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'oblation, aux holocaustes, alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. »
Le psaume 50 est le psaume qu'on lit le plus, je pense, dans l'Église. Enfin, pratiquement tout le monde le connaît par cœur, parce qu'on l'utilise tout le temps et on le dit plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que ce psaume, il exprime beaucoup, beaucoup de réalités très importantes, mais en particulier, avec la question que vous posez, il exprime ce qui est l'essence du culte agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'un... une célébration liturgique, un sacrifice liturgique, la célébration d'un sacrement, n'importe quel sacrement, n'importe quelle expression du culte, si elle n'est pas fondée sur le sacrifice intérieur, c'est-à-dire la purification du cœur, et tout le cœur brisé dont parle le psaume, c'est-à-dire le repentir profond et la découverte de la miséricorde de Dieu, un culte qui ne serait pas fondé sur un sacrifice intérieur, sur une liturgie intérieure, sur un culte intérieur, n'a en fait aucune valeur. C'est assez important, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des célébrations qui ne sont pas agréables à Dieu. On peut ne pas être agréable à Dieu, ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'on a célébré la liturgie selon saint Jean Chrysostome comme on doit le faire, qu'on est agréable à Dieu. Il faut qu'il y ait derrière, en profondeur dans cette célébration, il faut qu'il y ait une offrande sincère, réelle, consciente du cœur de l'homme. Et ça, cette offrande, c'est en fait une purification. On est purifié des sangs versés, c'est-à-dire de tout ce qui est transmis par la mémoire collective, par les ancêtres, etc. Et on est purifié parce qu'on a un cœur brisé à la fois de repentir et de gratitude et d'émerveillement à l'égard de Dieu. Et c'est ce brisement du cœur par le repentir et par la gratitude qui est la base d'un sacrifice agréable à Dieu.
C'est à partir de celui-là, en fait, que, à partir de cette reconnaissance que le cœur est brisé et que les murs de Jérusalem sont brisés aussi, que, à ce moment-là, Dieu accorde sa bienveillance à Jérusalem et relève les murs de Jérusalem, c'est ça ?
C'est-à-dire que le relèvement des murs de Jérusalem, ça ne désigne pas ce que tout le monde peut espérer, la sauvegarde de la cité matérielle de ce pays, mais c'est le relèvement du lieu même où l'on célèbre, parce que Jérusalem, c'est le lieu du temple. Donc c'est une figure de la communauté des croyants, qui est le temple non fait de main d'homme dans lequel est offert le sacrifice agréable à Dieu. Alors Dieu relève son peuple qui est appelé Jérusalem et il reçoit avec agrément son culte parce que ce peuple est un peuple qui a d'abord réalisé le sacrifice intérieur, s'est vraiment repenti de ses fautes et est devenu capable d'apprécier la miséricorde de Dieu. Si c'est lié par exemple à la préparation de la liturgie, nous devons absolument avant la sainte liturgie confesser nos fautes, nous repentir, demander pardon à nos frères, pratiquer le jeûne, etc., c'est-à-dire nous purifier pour Dieu. Mais non pas pour accomplir une sorte de satisfaction de Dieu, mais pour que le sacrifice que nous allons offrir, soit ait une profondeur spirituelle, ait une authenticité spirituelle, ait une validité spirituelle aux yeux de Dieu, que ce soit un sacrifice qui puisse être agréé par Dieu, c'est dans lequel Dieu reconnaît la sincérité de la prière.
Yeah.
rappelle que nous recevons aujourd'hui Père Marc-Antoine, enseignant de théologie liturgique et de dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe Dimitrios Staniloi à Paris. Alors, Père Marc-Antoine, vous disiez à l'instant, vous parliez de la sincérité de la prière, on parlait donc du psaume 50, et dans cette dialectique, en fait, si on comprend bien, entre le rite et l'esprit, entre cette tension finalement que semble mettre en évidence le psaume 50 entre le rite et l'esprit, entre le rite et la louange, il y a un verset que j'aimerais vous citer, où on dit « Délivre-nous du sang, ô Dieu de mon salut, et ma langue exultera pour ta justice. » Est-ce que là, on n'a pas quelque chose qui vient déclencher un petit peu cette prière intérieure dont vous parliez ?
C'est qu'en fait, la prière intérieure, parce que nous avons appris la tradition des prophètes et des pères de l'Église après eux, c'est que la prière intérieure, c'est une prière de repentir. C'est ça qui, c'est par la prière de repentir que l'être humain est effectivement, reçoit de Dieu la purification de ses fautes, et particulièrement le sang versé. Sang versé, ça peut être la violence, ça peut être, mais c'est très inclusif comme concept d'avoir cet au pluriel dans le texte que nous avons. C'est les sangs versés, c'est-à-dire c'est la multitude des formes que prend la souillure que nous portons. Et donc, il n'y a que par le repentir que l'être humain peut effectivement se purifier, et non seulement se purifier lui-même, mais purifier sa lignée, puisque le sang, surtout dans la mentalité juive, c'est le sang qui transmet la mémoire, donc toute la mémoire de nos parents, de notre peuple. Nous pouvons la purifier en nous repentant nous-mêmes. Donc là, à travers ce mystère du sang, il y a une articulation très importante entre le « je », la personne, celui qui dit « je » dans le psaume, parce que c'est un psaume qui est à la première personne du singulier, et en même temps la communauté à laquelle il appartient. Et ça veut dire que le repentir est toujours une démarche qui concerne bien sûr la personne qui s'engage dans cette voie, mais également tout le peuple auquel elle appartient, toute sa lignée, c'est la communauté, sa fraternité, l'Église en fait, au sens large, qui inclut l'Israël ancien. Et c'est vrai que ce psaume est très très important, parce que sans cette démarche-là de purification personnelle par le repentir, et donc de purification également des péchés des anciens et des autres, enfin de l'humanité en quelque sorte, il n'y a pas de culte possible. On ne peut pas présenter à Dieu la célébration eucharistique si on ne fait pas cette démarche de purification. Parce qu'autrement, notre prière peut être une prière mensongère. On dit à Dieu une chose, alors que l'autre chose, on ne l'a pas faite. Et il faut quand même, c'est Saint Jean de Kronstadt qui dit ça, il dit « Fais attention que tes lèvres ne disent pas une chose et ton cœur une autre ». Le psaume 50 est un psaume de la cohérence en fait, un psaume de la cohérence, un psaume de l'unité anthropologique, c'est-à-dire le moment où ce qui se vit dans la profondeur de mon cœur, c'est le temple intérieur, eh bien ça a une répercussion sur le peuple auquel j'appartiens, et ça donne une validité, je ne sais pas si c'est un mot un peu juridique, ça donne son authenticité, voilà, ça donne son authenticité à toute forme de célébration, que ce soit des vêpres, matine, ou le signe de la croix, n'importe quoi. C'est l'authenticité du geste rituel s'enracine dans la prière de repentir.
Alors, au-delà de cette cohérence que recherche Dieu, que nous demande Dieu, c'est-à-dire le fait d'être en adéquation entre nos actes et nos paroles, un petit peu avoir un verbe ontologique en quelque sorte, est-ce qu'il n'y a pas une exigence extrême, inouïe de Dieu à le reconnaître comme père seulement si on fait le deuil de notre père terrestre, le deuil de notre sang?
C'est-à-dire qu'il s'agit par cette expérience-là du repentir et donc de la reconnaissance de la miséricorde de Dieu, nous nous montrons fils, nous manifestons notre filiation divine. L'exigence du père, elle se reconnaît dans le fait qu'effectivement nous nous montrons des vrais fils, et nos parents biologiques ou sociologiques, si vous voulez, ils deviennent des frères éventuellement, mais la seule filiation devient celle du père. On pourrait le montrer par le rite du baptême orthodoxe, c'est très intéressant. À partir du baptême, les parents biologiques et sociologiques sont relativisés.
Merci beaucoup, Père Marc-Antoine.
Merci.
C'était Sur les sentiers de l'orthodoxie avec Père Marc-Antoine Costa de Beauregard, doyen de la France pour l'archevêché roumain d'Europe occidentale et méridionale, au sujet du psaume 50.